Bonjour à tous. Dans la deuxième partie de la Grande Table, invitée la philosophe Sylviane Aguinczynski. Le corps, un champ de bataille, elle publie aujourd'hui un court essai manifeste, l'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué. Un court essai qui fait écho au débat actuel sur la bioéthique dont le projet de loi sera discuté à la rentrée au Parlement. On la retrouvera à partir de 12h55. Mais d'abord, la grande traversée d'Adrien Bosque et d'Olivier Assayas. L'un est écrivain, l'autre cinéaste. Plus de 80 ans après, ils ont refait le voyage d'un bateau parti de Marseille pour la Martinique en 1941. À partir des textes de Jacques Rémy, père d'Olivier, et des photos de Germaine Krull, édité chez Stock, Un voyage accompagne l'exposition à venir aux rencontres de la photographie d'Arles cet été, où nous attend son directeur pour en discuter.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Bonjour Adrien Bosque.
Bonjour Olivia Jesbert.
Bonjour Olivia Assayas.
Bonjour.
Vous serez à partir de lundi à Arles, car s'ouvrent là-bas les rencontres de la photographie jusqu'au 22 septembre, avec plusieurs expositions cette année qui retracent l'histoire de la photographie. 50 ans de rencontres, 50 expositions, c'est tout simple. Un chiffre donc à retenir. Bonjour Sam Stourdze.
Bonjour.
Vous avez pensé cette nouvelle édition avec un regard rétrospectif sur ces 50 dernières années?
Oui, absolument. Chiffre rond pour un jubilé jubilatoire. On a voulu se plonger dans les 50 dernières années des rencontres d'Arles, mais pas que dans la rétrospective. On a voulu aussi se plonger et se projeter dans les 50 prochaines années, faire une espèce de grand écart entre la découverte des nouveaux talents qui sont appelés à devenir demain le patrimoine d'aujourd'hui.
Avant d'en venir aux nouveaux talents, cet hommage à Weston Edward, une exposition inaugurale en 70 que vous reconstituerez cette année avec des clichés donc de l'américain, figure tutélaire pour beaucoup de photographes, et une autre en l'honneur de Lucien Clergue qui a fondé les rencontres, lui-même photographe, directeur artistique aussi de cette manifestation, tout à l'honneur de cet art qu'est la photographie aujourd'hui. Deux figures qu'il était incontournable de retrouver cette année, cet été à Arles.
Oui, et très émouvant de pouvoir reconstituer l'une des trois expositions des rencontres d'Arles de 1970, la première année du festival. C'était celle d'Edward Weston, 36 tirages exposés, des tirages étonnants. Vous savez, en 1970, la photo était vue nulle part. Et nos trois amis, Lucien Clergue, Jean-Maurice Rouquette, qui s'occupait pour la ville d'Arles du patrimoine, et puis Michel Tournier, qui, en parallèle de sa carrière d'écrivain, animait à l'ORTF une émission sur la télé, les trois se réunissent pour lancer ce festival de photos, considérant qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même. 50 ans plus tard, le festival rassemble 150 000 visiteurs, il y a 50 expos, mais cet esprit des pionniers, cette idée de surprendre, de retrouver à la fois les grands maîtres et de se plonger dans l'avenir, c'est l'ADN des rencontres qui persistent.
Et puis des femmes à l'honneur, celles d'hier et d'aujourd'hui, Suzanne Mézélas, Eve Arnold, Abigail Heyman, trois ex de Magnum, et un retour par le passé, Sam Stourdze, qui passera par l'œuvre de Germaine Krull. Pourquoi avoir retenu le projet de nos deux invités, Olivier Assayas et Adrien Bosque, qui seront avec vous à Arles dès la semaine prochaine?
Ils vont vous le raconter dans un instant, mais la manière dont ils en parlent, ce projet est séduisant. Et quand Adrien m'a fait la lecture de ce qui allait être son ouvrage il y a un an, quand on s'est rencontré avec Olivier Assayas, il y a eu tout de suite cette envie de transformer en exposition ce projet. On aime à Arles décloisonner, faire se rencontrer des regards de créateurs différents et de pouvoir proposer à un cinéaste et à un écrivain d'endosser les habits de commissaire d'exposition et de remettre en scène cette histoire qui touche à la fois pour l'un une histoire familiale, qui touche l'histoire de la photographie, qui touche l'histoire des diasporas, des voyages, de cette période troublée française. Voilà, on avait envie en images de pouvoir tenter de raconter cette histoire avec plusieurs niveaux de lecture. J'étais ce matin dans le lieu où l'installation est construite et où l'expo va se mettre en place dans quelques heures, et c'est très très séduisant.
Au cloître Saint-Trophime, c'est ça, d'Arles?
Absolument, voilà. L'un des lieux patrimoniaux les plus sublimes d'Arles, puisque les rencontres, c'est bien celle de la photographie, mais c'est aussi l'expérience de cette ville étonnante où on peut pousser les portes de bâtiments patrimoniaux les plus exceptionnels, où se déploient des expositions.
Alors, c'est un voyage assez étonnant que vont nous raconter effectivement nos deux invités. Vous avez eu le privilège jusqu'ici d'avoir presque une lecture privée d'Adrien Bosque, de ses écrits il y a un an, vous disiez. Il va nous raconter aujourd'hui comment lui est entré dans ce voyage, dans cette histoire, dans cette grande traversée, et comment Olivier Assayas l'a rejoint à bord. À noter juste la présence aussi de German Krull, qui sera représenté dans une autre exposition consacrée cette fois à la revue d'avant-garde Variété. Un mot de cette revue, Sam Sturdze?
Oui, Variété, c'est une revue belge d'avant-garde qui va convoquer les surréalistes. Elle est publiée pendant 2 ans, entre 1928 et 1929. Tous les grands noms aujourd'hui de la photographie vont publier dans ces pages. C'est Germaine Krull, c'est Bérénice Abbott, c'est Élie Lothar, c'est Man Ray, c'est Kertész. Et on a retrouvé toutes les photos originales qui, à l'époque, servaient de reproduction pour les publications. 200 tirages qu'on appelle vintage, qui sont exposés et qui dialoguent avec les pages du magazine. Pour un commissaire d'expo, un directeur de festival, c'est un peu la trouvaille, la malle magique découverte au grenier et dont on partagerait avec le public les chefs-d'œuvre. Un dernier mot pour vous dire que Germaine Krull, elle est aussi dans une troisième exposition qui s'appelle La Zone et qui revient plutôt avec des photos amateurs ou anonymes sur ce bidonville construit autour de Paris, à la place de ce qui est aujourd'hui le périphérique. Et Germaine Krull était là aussi à documenter ce lieu assez étonnant. Donc, pour les visiteurs d'Arles, à travers 3 expositions, de retrouver 3 regards très différents de la même photographe sur des sujets différents, c'est assez passionnant.
Merci beaucoup, Sam Sturdze. Arles, une mine d'or photographique, on ne saurait trop vous recommander, si vous passez par là, par le sud, de vous y arrêter. Merci à vous, France Culture, il est midi 10.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Avant de la reconstituer à partir des archives, photos, textes retrouvés par Olivier Assayas, cette traversée de Marseille à Fort-de-France, vous l'avez imaginée et documentée, vous, Adrien Bosque, dans Capitaine. À son bord, André Breton, Claude Lévi-Strauss, Victor Serge, Germaine Krull, Raymond Assayas, alias Jacques Rémy, votre père, Olivier. Qu'allaient-ils tous chercher là-bas, ou plutôt, que fuyaient-ils ici?
On est en mars 1941 et on est à Marseille. Marseille, à ce moment-là, et on le sait par de nombreux récits, des romans, y compris de certains de ses passagers, dont Anna Segers, qui a écrit peut-être le livre le plus fort sur cette période qui est Transit. On est à un moment où le Marseille, malgré soi, est une sorte de capitale européenne d'une culture en fuite, mais culture politique aussi, d'intellectuels, qui tous menacés, réprouvés à la fois de la France de Vichy, mais menacés aussi, évidemment, exilés de l'Est et ex-dissidents allemands. Pour certains, ils en sont à plusieurs départs, évidemment le départ de leur pays, puis le départ de Paris pour la communauté allemande, allant de camps de transit en camps d'internement pour les exilés allemands. Ce qu'ils allaient chercher, c'est évidemment un secours. C'était évidemment un salut ailleurs, sur un autre continent, avec des pays d'accueil. Et ces pays d'accueil sont principalement en Amérique, sur le continent américain, évidemment les États-Unis, mais dont la voie est barrée pour les communistes et apparentés, et l'Amérique du Sud, dont le Mexique, qui s'avère la terre d'accueil de ces dissidents socialistes et anarchistes. Ils prennent la voie des mers, deux voies existent, la voie des terres par Portbou et par les Pyrénées en direction du Portugal, pour certains autres bateaux qui partiront, d'autres histoires fameuses comme Saint-Ex et Renoir sur un même bateau, et la voie des mers partant directement de Marseille avec très peu de bateaux, et une sorte de trou de souris qui s'ouvre entre novembre et la fin 40-41. Jusqu'à Pearl Harbor, de cette voie des Antilles, qui reste le chemin peut-être le plus aisé de traverser l'Atlantique, mais d'atteindre le continent américain sans avoir à changer et sans avoir à ajouter un visa supplémentaire, à savoir un visa de transit. On reste sur le territoire français, et donc pour certains, c'est le chemin le plus simple pour se sauver.
Dans ce livre, Un voyage Marseille-Rio, 1941, avec des textes et des photos de Germaine Krull et de Jacques Rémy, et des textes de vous deux, Adrien Bosque et Olivier Assayas, vous racontez, Olivier Assayas, que votre père vous a pas peu raconté cette traversée, ce départ, ce qui s'est passé et ce qui s'est joué pour lui là-bas. C'est-à-dire que le souvenir, cette mémoire, vous l'avez reconstituée à partir des textes et des photographies que vous avez retrouvées dans votre maison familiale. Pourquoi votre père fait ce voyage en 1941 ?
Mon père fait ce voyage en 1941 pour les raisons qu'a décrites Adrien. Admettons qu'il avait peu confiance dans la politique de Vichy quant à sa conduite par rapport aux Juifs. Il se trouve qu'il l'était. Que le cinéma dans lequel il travaillait ne l'accueillait pas. Plus, il a été mobilisé en 39, donc il a fait la drôle de guerre, la débâcle. Il arrive en 41 dans un milieu qui est le sien depuis le départ, parce que mon père était un militant antifasciste actif. Il se retrouve dans un milieu de réfugiés espagnols, d'anti-nazis allemands. Et puis une partie de sa famille aussi qui était réfugiée entre Nice et Marseille.
Il embarque seul.
Alors je pense que là il y a une petite zone d'ombre dans le sens où il l'une des raisons pour lesquelles il arrive à partir, parce qu'il aurait tout aussi bien pu ne pas y arriver, c'est qu'il est marié avec une femme qui était soit sa première épouse, pas ma mère, qui se trouvait être italo-argentine. Et donc, de par son mariage, il devait avoir une sorte de nationalité argentine qui lui permettait donc d'avoir les tampons, les visas nécessaires au voyage. Mais il se trouve que, autant que je puisse analyser les documents qui sont à ma disposition, c'est que son épouse ne se trouvait pas sur le bateau sur le capitaine Paul Lemaire, lequel avait dû prendre l'un des précédents bateaux qui ont fait la ligne Marseille-Fort-de-France, je ne sais pas lequel, et sans doute quelques semaines auparavant.
Voilà, votre mère, elle-même réfugiée hongroise, il l'épouse en 1954, donc plus tard, un an avant votre naissance, et quatre ans avant celle de votre frère Mishka. Vous racontez que ce passé de vos parents est resté longtemps un sujet d'énigmes et de fantasmes, qu'il vous était aussi difficile d'explorer qu'à travers certains indices qui avaient pu être disséminés un peu partout.
Oui, mon père ne s'intéressait pas au passé. Et encore moins à son propre passé. Je dirais ainsi, il a réalisé deux films en Amérique latine. Hein. Il était assistant réalisateur dans les années 30 en France auprès de toutes sortes de cinéastes. Quand il a fini par arriver à Buenos Aires, il a réalisé deux films là-bas. Il en a réalisé un à Buenos Aires effectivement, et un autre en français, un film entre guillemets de la France libre, dans la cordillère des Andes au Chili. Jamais il ne s'est préoccupé de retrouver ses films, d'en parler à ses enfants, et de la même manière, l'épopée du capitaine Paul Lemaire, son voyage, j'ai dû le reconstituer en partant d'indices, parce que ça ne l'intéressait pas beaucoup. Ce qui l'intéressait, c'était le présent et les choses que sans doute que mon père m'a fait passer, qui ont à voir avec l'histoire de l'art, de la littérature, de la peinture, etc. Il n'avait pas un grand intérêt pour son histoire personnelle, ni même pour son histoire familiale.
Voilà, alors l'histoire de votre père retrouve aussi celle de Claude Lévi-Strauss, qui sera aussi sur ce bateau et qui, en 41, 1941 est démobilisé, interdit d'enseignement par les lois de Vichy et qui va à son tour embarquer pour les États-Unis. On est donc le 24 mars 1941 quand le capitaine Paul Lemerle quitte Marseille. La traversée va durer un mois jusqu'à Fort-de-France. Comment se passe la vie à bord ? L'écrivain militant Victor Serge, aussi présent sur le bateau, parlait d'un camp de concentration flottant. Votre père a apporté aussi son témoignage dans des notes de cette traversée. Je vous propose d'écouter d'abord les mots du poète guadeloupéen Daniel Maximin, extrait d'une histoire particulière sur France Culture.
Tout le monde est sur le pont, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ils sont plus de 200 dans un bateau qui a 4 ou 5 cabines. Et donc, c'est une traversée horrible. D'ailleurs, le bateau, comme tant d'autres, aurait pu être torpillé. Et on imagine quelle perte ça aurait été. Donc, c'est pas le bonheur. C'est vraiment la fuite. Fuite désespérée, dans des conditions qui est terribles. Il paraît que Breton avait un gros manteau d'hiver, être comme un ours pour se promener sur le pont. Et puis voilà, c'était quelque chose d'assez douloureux en fait. Mais en même temps, avec l'espoir d'arriver en face. Et donc, fallait supporter cette traversée du pire vers l'espérance.
Voilà, ce temps suspendu, cette idée d'un voyage sans retour, en tout cas quand le bateau part, quitte Marseille. Votre père, Jacques Rémy, en témoigne aussi. Ces mots que vous rapportez dans ce livre, partir en temps de guerre, ce n'est pas comme partir en temps de paix. On sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive. On sait quand on part, on ne sait pas si on y arrivera aussi. Mon itinéraire de Marseille à Buenos Aires passe par l'Algérie, le Maroc, les Antilles, la Guyane et le Brésil. C'est pendant la guerre mondiale numéro 2, la ligne directe, pour un Français en âge militaire. Adrien Bosque, comment étaient les conditions de vie sur ce bateau ?
C'était à peu près décrit par Daniel Maximin, et pour préciser, lorsqu'ils embarquent le 24 mars, ils embarquent sur un cargo qui n'est effectivement pas fait pour accueillir 250 personnes. Ils ont tous pris des billets, y compris des billets de classe, mais de classe il n'y en a pas. Il existe 4 effectivement ou 5 cabines. Ces cabines sont réservées à l'équipage qui les menait à certains de ces réfugiés, parce qu'il y a aussi des réfugiés économiques sur ce bateau. Lévi-Strauss a la chance d'avoir une place en cabine, mais ne tient ça qu'à un heureux hasard qui est que certains membres de l'équipage le reconnaissent comme un habitué de ces lignes avant-guerre, ce qu'il raconte dans Triste Tropique, et donc comme une sorte de symbole de cette avant-guerre et de cette période heureuse. Eh bien, il a certains avantages, mais pour le reste, c'est deux cales qui réunissent l'ensemble des passagers avec des dortoirs aménagés à la hâte et des couchettes de paille tassée. Donc on est vraiment dans des conditions effectivement extrêmement dures, mais ce qui est intéressant, c'est qu'assez vite, et c'est ce qui a été porteur aussi pour le roman, et ce roman qui s'inscrivait d'abord dans une sorte de point aveugle, justement là, sans image, c'était de voir, et dans les récits, ceux de Victor Serge, ceux de Lévi-Strauss, ceux de l'ensemble des relations de ces voyageurs, y compris de certains inconnus, à quel point, très très tôt, un peu comme un liquide se séparerait d'emblée, eh bien, les communautés allaient se reformer sur le pont du bateau, au point qu'une topologie parisienne allait se recréer immédiatement, et que on nommerait assez vite dans la traversée certains quartiers du bateau par des noms de quartiers parisiens. La Villette pour les réfugiés espagnols, on parlerait de Montparnasse pour le pont supérieur où se trouve une table, et forcément autour d'une table les intellectuels se rassemblent et font université populaire. Mais c'est ce qu'on voit assez vite, c'est-à-dire on peut s'imaginer un peu malicieusement que le Lévi-Strauss, qui n'est pas encore le Lévi-Strauss des structures élémentaires de la parenté, eh bien, vu là des invariants de structure, se recréer immédiatement sur le pont du bateau. Donc c'est à la fois des conditions terribles, qui sont réelles et qui vont perdurer le long de la traversée, avec des conditions d'hygiène, d'alimentation extrêmement dures, mais c'est aussi la reformation immédiate d'une société, une société en fuite, mais qui se recrée jusque, et c'est là où peut-être la différence et ce que nous apportent les images, une forme peut-être pas d'allégresse, mais à la toute fin, une image dans cette fête de Neptune qui montre une sorte d'éclat dans la torpeur.
Voilà, c'est ce dont témoignent ces images prises, ces photographies par German Krull que vous avez retrouvées, Olivier Assayas. Elles témoignent à la fois du quotidien, de la vie à bord, de la fraternité qui va naître et se créer entre ces hommes majoritairement et ces femmes, mais aussi de la manière dont on mangeait avec les photos des cuisines, dont on pouvait aussi éventuellement faire la fête. En tout cas, se retrouver cette sociabilité qui va naître à bord du bateau. Ils vont arriver en Martinique au bout d'un mois. Et là, ce sont les premiers mots et les premières images de German Krull et de votre père, Jacques Rémy, sur ce qu'ils vont trouver là-bas. Le chapitre est titré « Camp de concentration en Martinique ». Qu'est-ce à dire ?
D'abord, il faut reprendre ce qu'était la Martinique à cette époque-là, c'est-à-dire une colonie française qui était activement vichiste, ou même peut-être plus vichiste que Vichy. Donc, ces réfugiés, qui étaient considérés comme le rebut de l'Europe, n'étaient pas les bienvenus. Ils n'étaient pas les bienvenus à terre. Et aucun d'entre eux, d'ailleurs, ou très peu, une frange d'entre eux avait l'intention de s'installer en Martinique. La plupart étaient tolérés en Martinique dans la mesure où ils poursuivraient leur voyage le plus vite possible vers ailleurs. Donc ces émigrés très malvenus ont été immédiatement placés dans un camp à l'écart donc de la population martiniquaise, avec peu de dérogations pour pouvoir en sortir, et où on leur distribuait un minimum de nourriture et un minimum d'eau potable avec lesquels ils survivaient dans des conditions qui n'étaient pas meilleures que celles du bateau. Et à partir de là commence l'attente, et l'attente qui est différente pour chacun. Certains ont eu la chance de pouvoir poursuivre vers New York, Lévi-Strauss, Breton. D'autres ne pouvaient pas se rendre aux États-Unis, German Krull en l'occurrence, pour la raison anecdotique mais accablante d'une certaine façon, qu'elle était à cette époque encore l'épouse du cinéaste Joris Ivens, dont elle était séparée. Mais Joris Ivens était entré aux États-Unis en se présentant comme non marié. Donc, si German Krull se présentait à un poste frontière américain, elle démontrerait le mensonge de Joris Ivens, qui du coup se serait retrouvé en difficulté. Donc, elle a poursuivi vers le Brésil, qui semblait un accueil possible pour elle.
Il y a d'abord le passage par la Guyane.
Oui.
Parce qu'effectivement, il va y avoir séparation. Certains vont aller vers les États-Unis. Et puis, votre père et German Krull vont se rendre, eux, en Guyane, où ils vont voir et témoigner du bagne de Cayenne, raconté par German Krull. Ça donne que c'est aussi ici que débarquent tous ceux que la justice de France a condamnés à mourir doucement et jour après jour. Adrien Bosque, cette traversée, dites-vous, pour eux tous, ça va être vraiment le passage d'un monde à l'autre et la découverte de ce qu'on ne savait pas, ou en tout cas de ce à quoi on n'arrivait pas à croire tant qu'on n'avait pas vu de ses propres yeux. En quoi, notamment, ce passage par le bagne de Cayenne va la transformer, elle, German Krull, définitivement ?
Deux choses. Le passage d'un monde à l'autre, c'est ce qui rend cette traversée passionnante. C'est sans doute que pour nombre de ces personnages, y compris ceux illustres dans le futur, hein, qui le temps de la traversée reste anonyme, eh bien, c'est une bascule. Pour Lévi-Strauss, c'est une bascule d'un temps à un autre. Pour Breton, presque d'un déclassement, d'une fin de cycle. Et on a comme ça ce mouvement inversé entre deux temps. Pour le passage après le Lazaret, donc le camp de concentration en Martinique, effectivement, German Krull et Jacques Rémy peuvent prendre le courrier qui passe par Cayenne. Et on est
un cargo.
On est dans un moment assez particulier. Qui suit les révélations évidemment d'Albert Londres, les révélations qui ont entraîné, entre autres, une réforme, en tout cas un questionnement assez important du bagne, au point d'en abolir le bagne, je crois, en 38. Mais la déclaration de guerre entraîne la suspension de cette abolition, le temps de la guerre. Donc, il débarque dans un bagne presque livré, euh, presque des bagnards livrés à eux-mêmes, entre plusieurs statues, ce qu'ils découvrent aussi, les bagnards eux-mêmes, les libérés, qui doivent, qui ne peuvent partir du bagne, mais doivent doubler leur peine sur place.
Oui, c'est la règle du doublage, hein, selon laquelle un prisonnier, une fois libéré, doit rester sur place d'une durée équivalente à sa peine.
Exactement, et découvre tout un monde. Alors, pour vous répondre précisément sur le changement pour Germaine Kuhl, je ne saurais répondre précisément, sinon que dans son livre, et c'est presque ce qui a été le mystère de ce livre et de ces deux recherches qui se sont à un moment croisées, c'est que dans l'autobiographie de Germaine Kuhl, La vie mène la danse, qui a été publiée il y a peu par Textuel, eh bien, elle a cette phrase, en partant du bagne, qui est « J'ai détruit toutes les photos », en parlant des photos qu'elle réalise au bagne. Car une telle honte ne devrait pas rester éternellement sur un pays. Et pour moi, c'est le point de départ presque de mon livre. C'est « Elle a détruit toutes les photos, il n'y en aura pas, le roman est possible, presque dans ce point aveugle. »
Or, ces photos existent, et elles se sont retrouvées chez vous, Olivier Assayas. Comment vous l'expliquez ?
Encore une fois, c'est un point aveugle, ouais. dans le sens où le livre de Germaine Kuhl, La vie mène la danse, c'est une série d'entretiens qu'elle a donné à une historienne de la photographie, et et quand elle donne cet entretien, c'est quelques années après avoir vu chez mon père, ces photos, puisqu'elle les a identifiées, et donc j'ai certaines de ces photos qui sont annotées par Germaine Kuhl, disant ça représente c'est la femme de tel forçat, ce forçat-là est celui qui a tué un officier avec un sabre, et ainsi de suite. Donc en fait, elle donne cet entretien en sachant que ces photos, en réalité, ont existé, mais elle les a retrouvées chez mon père, sachant que le jeu qu'elle avait peut-être fait tirer pour elle, et en tout cas les négatifs qui y correspondent, ont disparu. C'est assez intéressant quand on y pense de comparer en fait l'expérience, enfin de comparer l'expérience de Breton. Qui rencontre Aimé Césaire, qui rencontre la culture martiniquaise, qui se passionne pour elle, Wilfredo Lam, qui découvre les paysages de la Martinique, et au fond, Germaine Kuhl, qui, elle, découvre la misère, découvre la souffrance, découvre au fond un monde assez cauchemardesque, qu'elle décrit de façon très éloquente et avec une grande violence, et qui sont comme le positif et le négatif.
Et vous racontez, Olivier Assayas, comment cette grande traversée à deux vous a permis aussi de redécouvrir cette femme que vous avez côtoyée petit, mais finalement si mal connue. Et vous racontez-vous, Adrien Bosque, comment la découverte de ces photographies a aussi transformé votre perception de ce voyage, un peu à la manière de Roland Barthes, qui disait que la photographie lui était douloureuse, car l'image est ce dont on est exclu, mais ça vous a aussi réintroduit dans le récit que vous aviez fait, imaginaire et bien documenté, de cette grande traversée. Un voyage, Marseille-Rio 1941, votre livre à deux, ou plutôt à quatre mains, vient de paraître chez Stock, et je rappelle donc que l'exposition est à voir à Arles dans le cadre des rencontres de la photographie. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup.